sur les autres micros. Merci à vous.
Alors, est-ce que ça va? Oui, merci. Ah, ça change de bruit. Donc, ouais, ça, on n'entend rien du tout. On essaye d'obtenir, comme je vous disais, des décisions politiques et juridiques favorables au logiciel libre, parce que on a aussi, alors donc la partie politique, je vous en ai un peu parlé, c'est l'idée, c'est avec le pacte du logiciel libre, comme vous a dit Sébastien, c'est d'aller voir des responsables politiques, essayer de leur faire signer un petit document extrêmement simple de quelques lignes, disant qu'ils s'engagent à ne pas prendre d'action qui soit contraire au développement du logiciel libre. Et ça, surtout, ça permet de faire prendre conscience aux politiques qu'ils ont un impact sur ce que nous, on fait. Quand ils votent des lois, quand ils votent des budgets, quand ils font des appels d'offres, pour que ce soit des régions, des communes. Voilà, ils ont un impact sur le développement du logiciel libre. Et puis juridique, parce que je vous parlais un petit peu de la vente liée au début. La vente liée, c'est quelque chose qui est interdit, mais qui se pratique. Et pour l'instant, la seule solution qu'on ait trouvée, c'est d'aller devant des juges, c'est-à-dire de porter plainte et de faire des procès aux vendeurs d'informatique, aux vendeurs de PC, pour faire simple, pour obtenir le fait de ne pas avoir à payer non seulement la licence de Windows ou de macOS, mais souvent ces ordinateurs sont fournis aussi avec d'autres logiciels, des antivirus, des choses comme ça, et qui finissent par composer une partie importante du prix que l'on paye en magasin. Et il y a un groupe de travail qui s'appelle Racketiciel, qui s'occupe essentiellement de ça, qui a été développé par la FUL. Et ce groupe Racketiciel, aujourd'hui, en est à plusieurs dizaines de procès gagnés devant les tribunaux pour obtenir le remboursement de ces licences que les gens ne veulent pas. Le problème, c'est que il faut aller en justice, donc beaucoup de gens, évidemment, ne le font pas. Moi, le premier, ça m'est arrivé dans le temps d'acheter des PC et puis de m'asseoir sur la licence Windows, par exemple. Donc, on essaye de promouvoir ça. C'est pas facile à faire, tout le monde ne le fait pas. Donc, on essaye de promouvoir ça et on essaye aussi d'aller voir les responsables politiques en leur disant que c'est pas normal qu'on soit obligé d'aller en justice pour faire valoir ses droits et que ça devrait être la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes qui devrait s'en occuper et qui ne le fait pas. Voilà, donc c'est là où on essaye d'avoir une action auprès des responsables politiques. Je dois vous avouer que pour l'instant, ça n'a pas été particulièrement couronné de succès. C'est-à-dire qu'on a été reçu, écouté, et ça n'a pas débouché sur grand-chose de très efficace. Donc on en est pour l'instant essentiellement à faire des procès. C'est pour ça qu'il y a le mot juridique. Défendre les droits des utilisateurs et des auteurs de logiciels libres, on le fait en partenariat avec la FSF France, donc la Free Software Foundation France, qui est le représentant en France de la Free Software Foundation, que je pense vous connaissez tous, mais vous n'hésiterez pas à me poser la question, qui est la fondation créée par Richard Stallman aux États-Unis et qui soutient le développement du logiciel libre. Et là, on a assez régulièrement des gens qui viennent nous poser des questions, par exemple sur les licences de logiciels libres. Est-ce qu'avec un logiciel libre, j'ai le droit de faire ci ou ça? Voilà, et on essaye de les renseigner et si besoin, de les orienter vers quelqu'un de compétent dans ce domaine. Et puis, favoriser le partage de la connaissance, ça, c'est un objectif très, très général. Alors, c'est un peu vague, mais à notre niveau, ça veut dire que, d'abord, bien sûr, on propage la connaissance sur le logiciel libre en tant que tel. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la promotion du logiciel libre. Mais on incite aussi les gens à publier leur contenu sous des licences libres. Ça veut dire notamment que quand on a à l'appris d'un groupe de travail qui s'appelle Sensibilisation, qui crée des affiches, des posters, des dépliants, vous en trouverez à l'accueil, vous verrez certains de ces dépliants, de ces posters, on essaye systématiquement de les publier sous trois licences qu'on a identifiées comme étant des licences libres, la GPL, la GNU-FDL, pardon, la Creative Commons by SA et la licence Art Libre. Et on publie sous les trois licences en même temps, pour essayer justement d'avoir un maximum de réutilisation possible de ces documents. de manière à ce que localement les gens puissent les récupérer, les arranger à leur sauce et les diffuser aux endroits où ça leur semble judicieux. Donc il y a un partage aussi de ce que l'April fait. On a aussi un logiciel libre donc, dont vous a parlé Benjamin tout à l'heure, qui sert à gérer les adhérents, mais qui est aussi bien sûr publié sous licence libre. Enfin voilà, on essaye d'avoir aussi une diffusion de la connaissance sous des licences libres. On a donc une association qui a à peu près 3500 adhérents. On a fait, donc je vous ai dit, une grosse campagne de recrutement. J'ai dit combien ? J'ai eu 3500. Merci, heureusement que tu écoutes. Merci, désolé. Bon, c'est marqué en gros, mais 5300. On a depuis 2 ans, maintenant plus de 2 ans, je crois, on n'a pas fait de campagne de réadhésion. Donc, on a un chiffre qui maintenant stagne, qui a même tendance à baisser un petit peu. Et pour l'instant, on n'a pas refait de campagne d'adhésion parce qu'on veut pas en refaire de manière trop régulière pour pas lasser les gens. Mais ça va être quelque chose qu'on va probablement organiser dans l'avenir pour essayer de compenser le fait que naturellement un certain nombre de gens partent de l'April de manière régulière. On a donc, je vous disais, des entreprises, des associations, les collectivités locales. On a 3 permanents, ce qui veut dire qu'on a réussi, avec nos cotisations à tous, à pouvoir payer 3 salaires, puisque c'est le principal des charges de l'April, ce sont ces salaires. Et ce sont les gens que vous avez vus donc, ce matin, pour ceux qui ne les connaissaient pas encore. Vous n'avez pas vu la 3e permanente qui s'appelle Jeanne, qui viendra peut-être à l'AG, je pense, qui viendra cet après-midi. Et donc, ces 3 permanents ont la charge de porter le message de l'April de manière régulière, notamment auprès, il y a tout un travail fait auprès des députés, des sénateurs en France et des députés européens au niveau du Parlement européen, parce qu'on s'est aperçu que les lois dont je vous parlais, notamment la loi DADVSI, qui nous sont arrivées dessus, en fait, sont des lois qui ont été votées au niveau de l'Europe au départ. Et ensuite, chaque pays doit les appliquer dans son droit local, si on peut dire. Et donc, l'idée fondamentale, ça a été de dire on est obligé aussi d'aller s'intéresser à ce qui se passe au niveau européen pour éviter que, pour essayer de, en amont de prévenir des problèmes. Parce que, après, une fois que c'est voté au niveau européen, les politiciens français ont tendance à dire oui, mais vous comprenez, c'est déjà validé au niveau européen, donc on est obligé de l'appliquer dans le droit français. Et là, en ce moment, vous avez peut-être entendu parler d'ACTA, qui est un accord international anti-contrefaçon. Et là, on s'aperçoit qu'on va être obligé, là aussi, d'aller se battre au niveau européen, parce que ce sont des accords qui sont validés pour toute l'Europe. Et on est obligé vraiment d'aller vers ces parlementaires européens pour pouvoir essayer d'agir en amont et pouvoir peut-être bloquer, avec un peu de chance, un certain nombre de décisions qui pourraient nous être après néfastes. Alors, on n'a bien sûr pas que les 3 permanents. L'April ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas un certain nombre de bénévoles qui s'impliquent activement. Évidemment, les membres du CA que vous avez vus, il y a un certain nombre de gens qui s'intéressent à certains points précis. Et donc, on s'est organisé en groupes de travail. Et ces groupes de travail, vous en avez quelques-uns parmi ceux qui sont les plus actifs. Je vous ai un peu parlé de sensibilisation. Donc, ça consiste à créer notamment des documents qu'on peut ensuite distribuer sur des stands, qu'on peut encourager les gens à poser des affiches dans des lieux de passage. L'éducation, c'est important. Il y a à la fois l'éducation nationale, mais il y a aussi tout le mouvement de l'éducation populaire, qui est un mouvement dans lequel on essaye avec lequel on essaye d'interagir pour les encourager à promouvoir les logiciels libres, à enseigner les logiciels libres. Et dans l'éducation nationale, où là aussi, on essaye évidemment de convaincre les gens d'utiliser des logiciels libres. Il nous semble que ça va de soi que les logiciels libres sont pertinents pour l'éducation. Parce que si vous enseignez un logiciel à des élèves, il semble naturel de pouvoir déjà ne serait-ce que leur donner une copie du logiciel pour qu'ils repartent chez eux et l'utilisent chez eux. Mais aussi qu'ils puissent regarder comment le logiciel est fait. Alors bien sûr, ça s'applique plutôt à des gens qui ont des connaissances en informatique, mais pas seulement, ça peut aussi voir comment un logiciel fonctionne, ça peut aussi intéresser tous ceux qui s'intéressent au design, aux interfaces homme-machine, etc. Donc vraiment, dans toute l'éducation, il nous semble que c'est très important d'avoir une présence des logiciels libres. Et ce n'est pas le cas actuellement. On a affaire à des lobbies de la part de grosses entreprises qui essayent de pousser évidemment leurs produits en avant. Et donc, on essaye de faire de la sensibilisation dans ce domaine. La revue de presse, ça, vous la voyez peut-être passer sur le site ou sur la liste info. Ça a été fait par moi pendant quelques années. C'est fait aujourd'hui par un charmant monsieur qui sera peut-être là cet après-midi, qui s'appelle Écharpe, et qui anime aussi une petite émission de radio autour des logiciels libres, enfin qui parle souvent de logiciels libres, et donc qui essaye de maintenir ce fil d'information. Et ça, c'est très utile pour avoir un petit peu, d'abord l'information au jour le jour de ce qui se passe, mais surtout, c'est pas mal parce que ça nous permet de créer un historique de ce qui s'est dit dans la presse. Et quand on veut revenir un an, deux ans, trois ans, cinq ans en arrière, savoir qu'est-ce qui se disait à l'époque sur tel ou tel dossier, ça c'est assez utile après pour composer un argumentaire notamment. Ah, tiens, c'est peut-être moi. Oui, c'est le câble qui tient pas bien, excusez-moi. On a, on a un groupe de travail diversité qui cherche à donc voir un petit peu comment on peut améliorer la représentation ce qu'on appelle les minorités visibles, mais aussi surtout les femmes dans le logiciel libre, parce qu'on s'est aperçu qu'à l'April, on avait en moyenne 6%, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de membres qui sont des femmes. Donc 6%, je ne sais pas, moi je me souviens de mes cours de biologie, je croyais qu'on était 50-50 en gros à peu près sur la planète. Et donc il y a un énorme déficit de femmes notamment. Et on a essayé de monter ce groupe pour essayer de réfléchir un petit peu à ça et à voir pourquoi il y avait ce phénomène et si on ne pouvait pas faire de la promotion du logiciel libre plus spécifiquement en direction notamment de la gente féminine. On a un groupe traduction qui fait un gros travail de traduire une partie du site web et certains de nos documents en anglais notamment. Mais aussi, on a eu la chance d'avoir un locuteur arabe qui a traduit un de nos posters en arabe. On a eu quelques traductions en espagnol. Donc, on essaye de traduire une partie de ce qu'on fait dans des langues étrangères, notamment l'anglais, parce que c'est le moyen d'avoir une visibilité, et bien sûr, à l'international. Hein, et notamment quand on va au niveau du Parlement européen, beaucoup des échanges se font en anglais. On a le groupe Transcription, dont Magali vous a un petit peu parlé, qui est un groupe qui prend des enregistrements audio ou vidéo et qui les transcrit au format texte, ce qui est un boulot assez chiant et pénible, en fait, à faire. Et on a trouvé quelques personnes...
C'est ton goût, parce que...
Oui, oui. Eh bien, oui. Ben oui, parce que moi, personnellement, j'ai essayé un peu et j'ai trouvé ça très fastidieux. Et en fait, il y a des gens qui font des petites réunions donc, et qui ils font ça en petits groupes, en petits comités. Et c'est vraiment super utile parce que quand on a des enregistrements vidéo, c'est impossible de faire de la recherche dedans, évidemment, encore aujourd'hui. On n'a pas de moyen de faire de la recherche texte dans les vidéos. Donc ça permet d'avoir le contenu des vidéos au format texte. Pour faire de la recherche, c'est très utile. Ça permet de retrouver les textes dans les moteurs de recherche. Et ça a aussi un très gros intérêt pour l'accessibilité. C'est-à-dire, ça aide beaucoup les gens qui peuvent avoir, par exemple, tout simplement les gens qui sont aveugles ou malvoyants et qui ont besoin d'avoir les textes en format texte pour pouvoir les obtenir en braille, par exemple. Et on a Libre Association, qui est un groupe, donc, comme je le disais tout à l'heure, qui essaye de promouvoir le libre au niveau du monde associatif Et là, ils sont très actifs en ce moment parce qu'ils sont en train de préparer un catalogue de logiciels libres pour les associations. Vous connaissez peut-être déjà, on doit en avoir quelques-uns en présentation à l'accueil. On a publié il y a un an à peu près un petit catalogue de logiciels libres très grand public qui s'adressait vraiment à monsieur tout le monde et qui présentait donc plutôt de la bureautique, des utilitaires de voilà pour faire du dessin, pour lire ses mails, ce genre de choses. Et on s'est dit que ça serait très intéressant de faire le même guide mais plus orienté association, c'est-à-dire gestion des utilisateurs, voilà, création d'affiches, enfin, tout ce genre de choses. Et là, le catalogue est en train d'être fabriqué. On espère qu'il sortira, je pense, vers la fin de l'année. Et on a un groupe, Admin6, site web, qui est le genre de groupe dont on n'entend jamais parler que quand ça plante, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire que ils font en sorte qu'on ait un site web qui tourne, qu'on ait des serveurs qui fonctionnent. C'est très important parce que comme nous sommes sur toute la France et même dans plusieurs pays au niveau de l'Europe, du Maghreb, etc., on communique beaucoup par les outils informatiques, par le mail notamment, et on a besoin de s'assurer qu'on a des serveurs qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc on a quelques admin 6 très très motivés qui font ça. Et on les remercie beaucoup parce que c'est vraiment un boulot, là aussi, relativement ingrat. C'est-à-dire que quand ça fonctionne, tout le monde trouve ça normal. Et quand ça plante, tout le monde proteste. Alors, la feuille de route 2009-2014. En gros, en 2009, on a mené une réflexion d'ensemble de ce que devait être l'April, de ce que ça devait devenir, pour voir un petit peu où est-ce qu'on allait. Et pour pouvoir expliquer à nos membres ce qu'on comptait faire. Et donc on a créé cette feuille de route qui est en ligne, je vous encourage à aller la lire. On est évidemment chaque année, quand on fait le bilan moral, vous le verrez cet après-midi, on est obligé de se remettre un petit peu à jour par rapport à cette feuille de route. Et notamment dans la feuille de route, vous verrez que on avait décidé d'essayer de monter à 10 000 ou 15 000 adhérents et à 6 permanents. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on en est loin, comme je vous ai dit, on est à 5000 adhérents et on est à 3 permanents. Donc voilà, ça fait partie des pistes de réflexion qu'on est en train de mener. Est-ce qu'on doit refaire des campagnes d'adhésion intensives, on va dire, pour pouvoir monter en puissance? Ou est-ce que, entre guillemets, on se contente de 3 permanents, ce qui est déjà pas mal dans une association, ce qui est déjà assez lourd à gérer? Et est-ce qu'on considère que bah, du coup, on met de côté un certain nombre de dossiers parce qu'on n'a pas suffisamment ou de temps de permanent ou de bénévoles disponibles pour s'en occuper. Alors ça fait partie d'une vraie réflexion de fond. Et donc, voilà, si vous voulez, on pourra en discuter et on sera amené à en discuter également cet après-midi. Et on a une projection thématique. Ça a été l'idée d'essayer de faire un peu le tri parce que on a plein de bonnes volontés, on a plein de gens qui viennent nous voir en disant « Ah, il y a tel sujet, c'est vraiment super important, il faudrait s'en occuper. » Et le problème derrière, c'est qui s'en occupe, qui fait le travail. Et donc, on a essayé de classer un petit peu quels étaient les dossiers pour nous prioritaires, les choses sur lesquelles on était prêts à s'investir, ce qui veut dire demander à nos permanents de passer un certain nombre d'heures de travail dessus. Et puis, des dossiers où on avait décidé qu'on ne pouvait pas les traiter ou que c'était moins urgent. Et cela, on fait ce qu'on appelle de la veille, c'est-à-dire on essaye de se tenir informé. Typiquement la revue de presse est un bon outil pour se tenir informé de ces sujets-là, mais voilà, on ne va pas être actif là-dessus sauf si on arrive à avoir des bénévoles qui tout d'un coup viennent nous voir en disant « Ah, nous on veut vraiment bosser là-dessus », auquel cas bien sûr on les encourage à le faire, on essaiera de les aider, mais on ne mettra pas forcément de temps de permanent, de temps de travail de permanent dessus. Voilà, alors la feuille de route quand on la regarde, ça fait ça. Donc ça, c'est un peu toutes les thématiques qui avaient été... on avait fait un espèce de brainstorming, on va dire. Et c'est toutes les thématiques qui étaient apparues. Donc autour du logo April, le premier cercle, on va dire, c'est les choses qu'on essaye, sur lesquelles on essaye d'être actif, ou en tout cas vraiment attentif. Et puis le deuxième cercle, si on peut dire, c'est les choses qu'on surveille, mais sur lesquelles on n'est pas forcément très actif.
Encore.
ou encore actif. Et, mais ça, ça, c'est, en, ça varie en, en permanence, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, en haut, vous, vous verrez législatif international, et on s'est aperçu que législatif international, là, typiquement avec ACTA, mais aussi avec les brevets logiciels qui sont en train de revenir en discussion au Parlement européen, voilà, c'était des choses sur lesquelles il fallait qu'on investisse du temps. Et donc Jeanne Tadeuse, notamment notre permanente, est allée au Parlement européen et va continuer d'aller au Parlement européen rencontrer des députés de manière à les sensibiliser à ces questions-là. Et donc, pour ce qui est de la vie associative, on a beaucoup de travail de permanent de fait, c'est une des richesses de l'April, et on a beaucoup de tous les groupes de travail dont je vous ai parlé tout à l'heure fonctionnent grâce à du travail de permanent. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... c'est des gens qui s'investissent vraiment beaucoup. Des fois, ça peut être très ponctuel. Ça peut être s'investir sur une journée, deux jours, lors d'un événement. Par exemple, venir demain la réunion des membres et puis travailler sur des dossiers, donner son avis, apporter sa contribution. Et puis, des fois, pour certains, comme je vous ai dit, ça peut être du travail au long cours. Alors, les webmestres, les administratifs sont des gens qui travaillent toute l'année, pas forcément intensément tout le temps, mais qui sont là en permanence pour régler les petits problèmes. Je pourrais parler de Denis, par exemple, qui est là, qui je m'excuse de te mettre en avant, je veux pas te mettre mal à l'aise non plus, mais on est en petit comité, hein. Voilà, qui vient nous donner un super coup de main quand il y a le salon solution GNU Linux qui est ah zut, c'est enregistré, qui a lieu à Paris tous les ans. Ben voilà, il est fidèle au poste, hein, régulièrement, il vient nous donner un coup de main pour tenir le stand. Et ça, c'est très utile d'avoir des gens qui puissent nous aider à être là, présent, même une demi-journée, une journée, pour pouvoir animer le stand, parler avec les gens, distribuer les tracts, aller demander aux gens s'ils connaissent l'April, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc il y a vraiment toutes sortes d'activités. Ça peut être aider à rédiger des documents, ça peut être relire des documents, parce que tout le monde est perfectible, on peut toujours faire des erreurs, mal argumenter ou argumenter de travers ou pas assez insister sur un point. Donc simplement le fait de relire les documents sur les listes de travail et dire ben là attention, vous pourriez peut-être tourner ça autrement, voilà, ça nous est très utile.
Effectivement, ça peut paraître totalement trivial d'avoir ce type de... Je pense que c'est bon en fait.
C'est bon, ouais. Pardon.
Ça peut vous paraître... en général, on sent assez... comment dire, c'est le matin encore.
Ouais, mais... il fait froid, là.
Oui, voilà, c'est ça. On sent un peu désemparé par rapport au dossier. Typiquement, quelqu'un qui travaille à plein temps, comme Jeanne, sur les problématiques de brevets logiciels, de marché public, c'est des sujets qui sont très techniques. Elle apporte... Ah, ben voilà, c'est bon, ça, elle est...
C'est un pas sûr.
Je vais prendre celui-là.
Voilà.
Elle fait une analyse de la doctrine, par exemple, sur les marchés publics. Elle a été une des premières à faire une analyse sur qu'est-ce qu'était la conséquence de la prise de décision de la Cour de cassation par rapport à l'achat de services informatiques. Bon, hyper technique. Mais il se trouve que c'est sans doute très technique. Il y a une doctrine juridique qui est en cours de construction et le travail de Jeanne nous aide à participer à ce travail-là. Mais ce qui est important, c'est que les arguments qu'elle va avoir soient compréhensibles par un maximum de personnes. Donc si vous venez sur la liste atelier, simplement relire un document et trouver quelques fautes d'orthographe, par exemple. Jeanne en fait peu, mais je suis un spécialiste en la matière. Voilà, ça aide. Ça aide doublement parce que vous nous aidez à savoir si l'argumentaire il est compréhensible par quelqu'un qui ne connaît rien en droit. Parce que le droit, en tout cas ma vision du droit, c'est que le droit, ça ne doit pas être fait que pour les juristes. C'est comme l'informatique libre, ce n'est pas fait que pour les informaticiens. C'est fait pour tout le monde. Et lire ça et nous dire « j'ai compris, j'ai pas compris », déjà c'est cool. Ça peut peut-être permettre de débusquer quelques fautes de typo... ou faute d'orthographe. Et en plus, le truc génial, c'est que ça va peut-être vous apprendre des choses aussi et que vous serez capable de porter les arguments lorsque vous allez dans votre marché, lorsque vous rencontrez vos amis et que vous discutez de tout ça. Donc, Il ne faut pas se sentir intimidé par ça. On ne va pas vous demander du jour au lendemain de nous écrire une doctrine d'analyse sur la Cour de cassation, évidemment. Mais simplement, une petite relecture, si jamais vous prenez les transports en commun et que vous avez la chance d'avoir un outil qui vous permet de lire ou des feuilles de papier, ça aide. Donc voilà, soyez pas intimidés. Les sujets, quand on les aborde comme ça, lors d'une AG, ça peut être un peu intimidant. Mais dans la réalité, il y a des petites tâches très simples qui permettent d'apprendre des choses et de partager autour de ces connaissances de l'informatique libre.
Et puis,
merci. Il faut bien être conscient. C'était une des questions qu'on s'était posées quand on est passé à la professionnalisation, c'est-à-dire quand on a commencé à embaucher des permanents. On s'est dit, est-ce que on va encore avoir des bénévoles qui viennent s'impliquer, parce que quelque part ils pourraient se dire, ben voilà, il y a un employé, il a qu'à faire le boulot. En fait, on s'est très vite rendu compte que c'était totalement impossible, parce que le permanent, il a des dossiers précis à gérer et il peut pas s'occuper par exemple des groupes de travail. Donc on a toujours besoin de membres actifs qui viennent s'impliquer dans les groupes de travail et qui viennent aider à travailler sur des, évidemment, sur des choses qui les intéressent, c'est-à-dire que on va être plus motivé à faire des tâches pour lesquelles on a un certain intérêt déjà, mais voilà, dans le logiciel libre est très vaste et il y a beaucoup de centres d'intérêt qui peuvent être développés. On a aussi monté des groupes, un groupe animation dont je vous ai pas encore parlé. Il y a Bouquinette qui est en haut là, qui nous surveille et qui est assez active dans ce domaine. L'idée aussi, c'est de pouvoir permettre aux adhérents de se retrouver et de travailler ensemble, mais pas que. C'est-à-dire, l'animation, ça peut aussi faire des choses un peu rigolotes, un petit peu en dehors du logiciel. Typiquement, ça peut être de faire tout simplement une rencontre. Voilà, bon, Magali est une spécialiste de fabriquer des gnous en pâte à modeler, donc voilà, ça peut être des choses très, c'est-à-dire que par exemple aux dernières rencontres du mondial du logiciel libre, il fallait occuper un peu les enfants qui étaient là, parce qu'il y avait quelques enfants qui étaient avec nous, et donc ils leur ont fait faire un gnou en papier mâché. Bon, ça peut paraître un petit peu puéril, mais en fait, c'était assez marrant parce qu'après, on l'a baladé dans toutes les rencontres mondiales du logiciel libre et ça a fait marrer tout le monde. Et ça a l'avantage de dédramatiser un petit peu les choses et de dire, voilà, on n'est pas juste des geeks derrière nos écrans à taper du code, mais on peut aussi faire des choses un petit peu plus fun, un petit peu décalées parfois. Voilà. Et donc, Magali est notre spécialiste en chef des trucs décalés. Avec Aurélia, bien sûr, avec le soutien de notre permanente. Mais c'est aussi quelque chose de... Enfin, là, c'est la partie vraiment anecdotique, mais le fond, c'est d'inciter les gens localement à se retrouver, même si c'est simplement pour discuter, boire une bière, et de pouvoir, après, créer des petites dynamiques de groupe localement pour inciter les gens à faire des choses assez simples dans le quotidien. Aller voir leur patron pour leur parler des logiciels libres, aller voir leur mère pour leur parler des logiciels libres, regarder un petit peu dans l'école de leurs enfants, si vous en avez, ce qui est utilisé comme logiciel. Enfin, vous voyez, de penser à diffuser un peu le logiciel libre autour de vous. Je pense qu'on est tous assez dans cette optique-là déjà de militantisme, mais on ne sait pas toujours comment le faire. Donc le groupe... animation peut aider à créer des petits réseaux locaux de gens qui se connaissent bien et qui peuvent ensuite agir ensemble. Et le projet RTFM, c'est un projet qui est en cours, qui sert à essayer de voir un petit peu comment on peut travailler avec les outils que l'on a, et notamment comprendre comment les adhérents interagissent avec nous. Et pour ça, parce que nous, on est habitués à travailler beaucoup avec des outils informatiques. Hein, on échange des mails, on est sur IRC, et donc qui est un système d'échange de messages en temps réel, de type chat. Et ça, on s'est aperçu qu'il fallait aussi se poser la question de savoir si tous les adhérents comprenaient bien l'utilisation de ces outils et s'il n'y avait pas peut-être d'autres outils à mettre en œuvre. Par exemple, on s'est posé la question d'avoir un forum sur notre site web. Voilà, ce genre de choses. Donc, on essaye de réfléchir à ces choses-là. Oui, bien sûr. Et on a développé depuis quelques années un certain nombre d'outils pour pouvoir échanger avec les membres. Alors, il y a le microblogging, c'est un petit peu le système à la mode. Identica, c'est le système libre, c'est la version libre de Twitter, hein, pour faire simple. Donc, il y a une passerelle entre Identica et Twitter, ce qui permet de tweeter. On a des flux RSS, ça c'est assez classique, hein, qui permettent de suivre un certain nombre des choses qui se passent sur le site web, notamment les flux d'actualité. On a aussi une lettre interne qui vous est diffusée donc deux fois par mois. Là aussi, on s'est posé des questions sur la manière dont on faisait cette lettre interne. Et ces derniers temps, on a essayé de la faire plus compacte. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas, le mail que vous recevez chez vous est un espèce de petit résumé. Parce qu'avant, on envoyait tout le contenu de la lettre par mail. On avait un certain nombre de gens qui nous disaient, mais de toute façon, on la lit pas, c'est trop long. Donc on prend le temps de faire un petit résumé. Et ensuite, vous pouvez aller sur le site web où là, vous avez le contenu complet, où parfois, il y a quand même pas mal d'activités à l'April, donc il y a pas... Voilà, vous pouvez la lire, mais vous pouvez aussi juste vous contenter du petit résumé si ça vous suffit. Et puis, on a Liste Info, qui est une liste sur laquelle je vous conseille de vous abonner. Vous pouvez le faire sur le site web. Et c'est une liste où on envoie, en gros, peut-être un à deux messages par jour, peut-être même pas un message par jour, on va dire, et qui permet de se tenir au courant de toutes les activités de l'April. Donc ça permet vraiment pour ceux qui veulent participer, de pouvoir suivre ce qui se passe, de pouvoir dire, ah oui, tiens, là, ils sont en train de faire... là, ils vont monter un stand, ils vont participer à tel événement, il y a une conférence, ils préparent tel document, je vais regarder ce qui se passe et éventuellement, je vais participer. GDTC, donc, c'est l'outil qui va vous permettre notamment de vous connecter sur cette liste, Liste Info, c'est un système qui a été développé donc par Benji, qui est ici présent, et qui est un gros travail de développement pour pouvoir gérer les adhérents, parce que on a essayé de trouver des solutions de logiciels libres, évidemment, pour gérer nos adhérents. Et ce qu'on a trouvé à l'époque ne nous convenait pas. Donc Benji, courageusement et en gros tout seul, s'est lancé dans la mise au point d'un logiciel libre, bien sûr, pour gérer nos adhérents. Et c'est un outil qui est vraiment fondamental, parce que quand on a 5000 adhérents, on a tous les jours pratiquement des gens qui nous demandent « Ah tiens, j'ai changé de numéro de téléphone. Ah tiens, j'ai changé d'adresse. Ah tiens, j'arrive plus à me connecter. » Donc Aurélia, notre permanente, fait un gros travail de suivi au quotidien des adhérents. Pardon. Et donc si vous avez des questions, si vous avez des choses à propos de l'association, vous pouvez lui poser des questions. Et puis, on va passer aux questions et aux échanges, parce que j'ai beaucoup trop parlé déjà. Alors, on va... Alban est parti peut-être boire un café. Est-ce qu'on a le micro qui... Non. Ben, je crois qu'il a déconnecté, en fait, par rapport aux autres.
Ah, si. Ça semble marcher.
Ben, voilà, alors.
Alors déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport à cet intéressant monologue? Le problème des monologues, c'est que c'est intimidant. Donc, si vous avez des questions, et puis c'est surtout en fait là, le moment d'échange, c'est plutôt de se dire, ça fait un bout de temps que j'ai un projet qui me turlupine, est-ce que l'April peut être le lieu pour le mener à bien? Ou est-ce que j'ai pas le temps, mais est-ce que quelqu'un serait intéressé pour le faire? Alors je vois que ça n'a pas de ton intimidé, c'est bien.
Moi, j'ai une question, parce que dans mon école, je me suis aperçu que beaucoup d'élèves comprenaient plus ou moins que la classe, voilà, pouvait poser quelques problèmes, mais ils ne savaient pas vraiment pourquoi. Est-ce que l'April, un des membres de l'April qui connaît ces sujets, pourrait intervenir dans mon école ou dans d'autres, si possible, si on en fait un membre?
Alors, ça fait partie totalement des missions de l'April. On en fait assez régulièrement. Il me semble que cette année, j'ai été invité trois fois, moi, et je pense que je ne suis pas le seul. Pierre, tu interviens, Christophe, Sébastien aussi. Évidemment, et on a la chance d'avoir un CA qui est bien réparti dans la France. Donc on peut se déplacer, enfin on peut être présent dans d'autres lieux que des écoles d'ingénieurs, par exemple parisiennes. Donc évidemment, ça fait partie de nos missions de promotion, et comme Lionel l'a très justement remarqué, nos activités de promotion et l'éducation nous semblent assez des thématiques assez centrales dans nos activités de promotion. Donc, t'es le bienvenu. Si tu nous trouves un amphi, des étudiants et une date, le deal, c'est qu'on trouve quelqu'un pour venir.
C'est celui-là ? Oui.
Tiens, Lionel, peut-être que là, du coup, ça va être plus simple avec.
Ils ne vont pas entendre. Merci. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ? C'est question, mais ça peut être remarque, ça peut être ce que vous avez envie de...
Moi, en fait, je me demandais, comme on voit récemment avec l'ACTA, avec les brevets logiciels qui reviennent sur la scène européenne, on voit que le volet international est important. Et je me demandais s'il y avait des liens qui se créaient entre l'APRIL et d'autres associations équivalentes, comme la FSF ou peut-être d'autres associations plus en Europe, pour faire des actions communes auprès des politiques.
L'APRIL est une association historiquement qui crée des liens avec, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de tout. C'était quelque chose qui a été. On s'est posé à plusieurs moments la question de savoir si on investissait tous les thèmes ou alors est-ce qu'on travaillait dans ce qu'on appelle, nous en interne, du partenariat dynamique. On a fait la deuxième option. Sur tous les thèmes européens, on travaille de concert avec un certain nombre d'organisations. Sur les thématiques purement logiciels libres, c'est beaucoup l'OFE, Open Forum Europe, qui est un peu une espèce de lobby des industriels qui travaillent autour du libre au niveau européen. On travaille aussi beaucoup avec les équivalents dans les différents pays européens de l'APRIL. Donc, je pense notamment à Assoli, l'équivalent aprilien italien. L'équivalent d'April italien, je pense à Hispalinux en Espagne, et on essaye comme ça de tisser un certain nombre de liens dans différents pays européens. Et évidemment, au niveau mondial, on travaille beaucoup avec la Free Software Foundation. On a travaillé un petit peu avec eux sur la thématique des brevets logiciels au niveau européen. Ils ont un référent à Bruxelles sur la question qui a malheureusement pas pu être aussi actif qu'on aurait pu le souhaiter. Et donc c'est essentiellement l'April qui porte ce sujet-là avec quelqu'un d'assez formidable qui s'appelle Gérald Cédrati Dinet, alias Gibus, qui a fait énormément là-dessus. Jeanne a fait aussi beaucoup de travail en tant que permanente, et qui permettent de défendre cette problématique assez vitale pour le logiciel libre. Et enfin, c'est des partenariats dynamiques, donc si vous avez des idées ou si vous avez des contacts dans d'autres pays qu'on n'a peut-être pas forcément encore établis, vous êtes les bienvenus pour qu'on travaille là-dessus.
Juste pour reprendre la question, est-ce que vous avez des contacts avec les associations de type UFC, UFC que choisir, ou des choses comme ça? Je me disais que ça pouvait peut-être être une possibilité de toucher des publics que l'APRIL a peut-être un peu plus de mal à toucher d'habitude.
La réponse est oui. Par contre, quand on parle d'UFC, de l'UFC que choisir, on pense au magazine. Nous, on a des contacts plutôt avec la partie défense du consommateur et notamment avec le gestionnaire de tous les thèmes numériques qui s'appelle Eduardo Barrera, que vous suivez peut-être sur Twitter. On a beaucoup travaillé avec eux sur les thèmes de la vente liée et notamment sur le cas d'Arty. Et cette année, on a travaillé de concert sur la partie vente liée au Parlement français, puisque le projet de loi consommation a permis d'avoir un débat qui n'a pas forcément abouti d'un point de vue législatif, mais en tout cas un débat parlementaire intéressant. Avoir quasiment une demi-heure sur le sujet au Parlement, c'est quand même quelque chose en hémicycle et une séance quasiment entière en commission sur la question, c'est une démonstration qu'il y a un intérêt politique sur le sujet qui est non négligeable. Après, on n'a pas réussi à faire aboutir ce sujet-là, mais c'était quelque chose d'intéressant et effectivement, ça a été possible grâce à l'expertise qu'on a au sein de l'April, que d'autres associations, qu'on partage avec d'autres associations, je pense notamment à l'AFUL, qui, d'un point de vue de la création de doctrine, le fait de pouvoir attaquer, comme le disait Lionel tout à l'heure, c'est important. Donc on s'est un peu réparti les rôles comme ça de fait, en fait. L'AFUL s'occupe plutôt de la partie attaque juridique et nous, on s'occupe plutôt de la partie législative, institutionnelle. Donc, on a beaucoup dialogué avec l'exécutif, on a beaucoup dialogué avec les parlementaires et ça, on le fait en bonne intelligence avec notamment les gens de l'UFC et notamment Edouard. Il me semble qu'Anaï a une question.
Par rapport à que choisir, je ne sais pas s'il y en a qui écoutent France Inter et l'émission Service Public, et régulièrement on entend parler de logiciels libres dessus, en fait, hein, depuis quelques temps. Enfin, moi, j'ai à chaque fois, ça m'interpelle l'oreille, et on en entend parler. Donc je pense que ça porte aussi ses fruits là-dessus, indirectement, ou je ne sais pas.
Je doute que ce soit de l'initiative de l'UFC Que Choisir. Il se trouve qu'effectivement, l'April a été invité, il me semble, par deux fois, mais peut-être plus, à intervenir dans l'émission Service Public lorsqu'elle était présentée par Giordano. Ça a changé de présentateur, mais effectivement, par aussi le militantisme des auditeurs qui poussent. Je sais qu'à chaque fois qu'il y avait des thèmes logiciels libres sur Service Public ou de manière générale sur France Inter, il y avait plein de commentaires sur leur site. En encourageant, et c'est assez notable par rapport à la moyenne des commentaires du site de Radio France. Donc c'est quelque chose effectivement d'intéressant, mais je pense que c'est plutôt lié à l'appétence des auditeurs de France Inter pour le logiciel libre, ou des libristes qui savent porter ces thèmes-là auprès des producteurs de la station publique.
Derrière ma question tout à l'heure, il y avait aussi l'idée que... Je me demandais s'il ne serait pas aussi intéressant de faire la promotion de l'April elle-même. C'est-à-dire, non seulement... C'est une bonne chose qu'on parle de logiciels libres dans des magazines ou dans des émissions de télévision, de radio. Est-ce qu'il ne serait pas aussi intéressant qu'on y fasse mention des associations qui s'occupent de ça, puisque vous parliez tout à l'heure de pas faire de campagne d'adhésion, est-ce que, tout de suite en tout cas, est-ce que ça pourrait pas être intéressant juste de mentionner, d'essayer de faire en sorte que le nom de l'April soit mentionné, comme ça, bon, pas faire de la publicité, mais enfin, ça revient un peu à ça.
Effectivement, on en a discuté hier, enfin, Jean-Christophe, je vais te laisser développer, mais c'est que, enfin, on a une communication presse à double objectif, qui est d'abord de pousser nos thèmes, c'est-à-dire que l'April... en tant que tel, c'est pas très intéressant. Le logiciel libre, c'est intéressant. Et pour pouvoir mieux pousser nos thèmes, il faut qu'effectivement l'April ait une certaine visibilité. Donc c'est pour ça qu'on fait des communiqués de presse, c'est pour ça qu'on a des réflexions de comment gérer nos contacts presse et acquérir une certaine légitimité dans ce milieu-là. Effectivement, par rebond, plus l'April est visible, plus il y a peut-être des gens qui disent « Ah oui, mais non seulement le logiciel libre, c'est bien, mais en plus l'April, c'est important, et c'est important, donc je vais adhérer et je vais faire mon plus un pour qu'on soit plus représentatif vis-à-vis d'un dialogue politique, mais également qu'on puisse pérenniser les postes des permanents qu'on a la chance d'avoir. »
Juste une précision sur le fonctionnement. Historiquement, il y avait à l'April deux groupes de travail. Un groupe de travail qui s'appelait « Sensibilisation », qui avait pour... comme Lionel l'a expliqué tout à l'heure, pour objet de fabriquer des supports de sensibilisation en logiciel libre. Un groupe de travail qui s'appelait Com Externe, qui avait comme objectif de travailler les outils de com de l'April. Et une décision qui a été prise récemment, ça a été de fusionner ces deux groupes de travail en se disant qu'en fait, ils avaient de grandes similitudes dans leur objectif et dans leur méthode. Donc aujourd'hui, c'est au sein du groupe sensibilisation que s'élabore et se travaille les supports de communication aussi de l'April. Et au sein de ce groupe sensibilisation, qui fonctionne bien maintenant, qui est un groupe bien établi avec un animateur très actif, qui, donc voilà, ce groupe fonctionne. Et il y a vraiment une place, par exemple, si tu as une envie, un projet qui serait de dire si on faisait un encart qui pourrait être dans le magazine UFC Que Choisir pour expliquer aux lecteurs de Que Choisir ce qu'est le logiciel libre et pourquoi c'est important, pourquoi ça les concerne. Si un enseignant veut faire un encart pour son magazine syndical pour expliquer à ses collègues enseignants pourquoi logiciel libre et éducation, en fait, on peut pas faire d'éducation s'il n'y a pas de logiciel libre, on arrête, on ferme les écoles, c'est plus la peine. Il y a vraiment une place pour ça, il y a des ressources, il y a un appui. Ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui prend cette envie, ce projet à bras le corps, qui poste un mail sur la liste et qui dit « voilà, j'ai envie de faire ça ». Qui amorce une page sur le wiki en disant voilà l'embryon de ce que ça pourrait être ce projet, et puis ensuite il y en a un qui va avoir le contact avec la personne qui peut négocier cet encart dans la revue ou dans le magazine, il va y avoir le graphiste qui va mettre sa petite touche de couleur et sa police de caractère, il va y avoir des relecteurs qui vont passer derrière à la fois sur la forme et sur le fond, sur l'argumentaire, sur la langue, la typo. Et l'expérience montre que on est capable de faire aboutir quelques beaux projets. Voilà. Donc, si tu as des envies, faut vraiment pas hésiter. Ça demande un effort de se mettre un peu en avant, de prendre le. Voilà. À l'April, l'expression, c'est prendre le A. C'est lancer le truc au départ. Mais si tu lances le truc, tu devras le porter, mais tu seras pas seul.
Alors, tu parlais de publicité de l'association. En ce moment, il y a une campagne qui est lancée où justement, on met pas en avant nos thèmes, mais l'association April, l'association Framasoft, la Quadrature du Net, et qui s'appelle le Pack Liberté. Donc, j'encourage vivement à tous ceux qui n'ont pas encore donné de le faire.
Et de relayer. Là, l'objectif, c'est de faire des dons, c'est-à-dire de pas forcément avoir de nouveaux membres, mais à travers cette campagne-là, faire connaître nos actions et accessoirement avoir un petit peu d'argent, comme vous pourrez le découvrir lors de la présentation du bilan financier. C'est pas quelque chose qui est anecdotique, la question financière.
Et puis c'était aussi l'occasion de me faire avec trois associations qui travaillent sur des thématiques qui sont proches, puisqu'on l'a fait avec Framasoft et avec la Quadrature du Net, que vous connaissez sans doute, j'imagine. Donc l'idée, c'était de voir comment on pouvait faire en sorte que ces trois associations aient une dynamique commune de recherche d'argent, parce que toutes les trois associations ont les mêmes problèmes de devoir payer des permanents. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Ou idées ou...
Ah bah.
Est-ce que quelqu'un voit le wifi après ?
C'est une bonne question. Est-ce qu'on a...
Nous, j'ai un Wi-Fi bisounours, mais...
Ah, dommage. Merci. Oui, bien sûr.
Je vois question échange, je vais plutôt échanger une expérience. Donc je suis membre April depuis un an et demi, ça je ne l'avais pas dit. Voilà, moi c'est fait. Ce que je vois sur l'île, c'est qu'il y a le projet POP qui a été mis en place depuis maintenant, c'est la deuxième année qu'il est lancé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le portable, c'est le projet ordinateur populaire où les étudiants de seconde première terminale ont un bon de 500 euros et ils vont chercher leur ordinateur qui est sous le logiciel libre. Bon, le retour d'expérience, c'est la même chose que j'ai eu moi il y a 5 ans. Ce sont des jeunes qui, tout d'un coup, on leur met du Linux. Donc, le problème que nous, on a, c'est au bout d'un moment, quand un projet est porté à l'échelle de tout un département, c'est la formation, justement. On n'est que quelques membres à prix et c'était surtout la formation, parce qu'à chaque lycée, il y a une personne qui s'occupe donc des ordinateurs pour faire les mises à jour. Mais ces personnes-là, ils ont mis un an avant qu'on puisse leur montrer ce qu'étaient les logiciels libres. C'était des jeunes qui n'avaient pas été formés sur ça. Et donc, voilà, donc la question, c'est quand ça nous dépasse, comment faire intervenir pour que rapidement on puisse relayer l'éthique du libre. Parce que, bon, après, c'est un projet, ça reste quand même positif parce qu'il n'y a eu que 20% de retour sur un OS non libre. Les 80% sont restés sur du libre au bout d'un an. Et là, deuxième année, ça s'est encore mieux passé. Et je pense qu'à la troisième année. Et donc, même à La Réunion, c'est très, très, très actif et c'est un sujet vraiment très actif. La guerre des OS, même à l'école, il y est, quoi. Voilà. Donc ma question, c'était quand ça nous dépasse et quand tout d'un coup, quelque chose est lancé d'un coup, comment former tous ces gens qui vont devoir... parce que les élèves, à l'heure actuelle, très peu quand même ont compris l'éthique qui est derrière. Voilà.
Alors, effectivement, c'est un certain défi et on peut, d'une, être un peu intimidé par la tâche et de deux, il n'y aura rien de magique. Et peut-être la réflexion qu'on peut avoir, c'est comment faire pour que la prochaine fois ils nous préviennent avant, grosso modo. Déjà, si on arrive à créer ce contact-là au niveau politique pour qu'ils ne partent pas dans un mode tunnel et que, in fine, on ne voit que la lumière à la fin du tunnel mais qu'on n'ait pas été au courant du projet au fur et à mesure, ça peut être assez intéressant. Après, nous, notre manière de travailler, c'est que sur ces problématiques-là, on va pouvoir offrir un certain nombre de supports ou essayer d'améliorer un support de sensibilisation pour mieux correspondre à la problématique locale. Surtout que là, elle est locale, mais elle est quand même assez massive, puisque c'est pas mal d'ordinateurs qui ont été déployés. Donc là-dessus, sur aussi bien la prise de contact politique, c'est vrai que quand c'est l'April qui frappe à la porte, ou quand on peut se faire représenter et dire bah voilà, je représente une association de 5000 membres répartis partout dans le monde, politiquement, ça n'a pas le même poids que je suis un expert, mais je ne représente que moi. Alors c'est un peu malheureux à dire, mais n'empêche que c'est ça. Donc là, on peut évidemment. S'assurer que le message qui soit porté d'un point de vue politique soit le bon et mettre en relation différentes personnes, puisque grâce notamment aux initiatives candidats.fr, c'est un peu l'objectif, c'est de pouvoir avoir un certain nombre de contacts politiques qui nous permettent de pousser des messages. Et après, c'est se reposer sur des forces vives locales. On pense pas. On a une image d'association parisienne puisque essentiellement le travail institutionnel au niveau national se passe à Paris. C'est malheureux à le dire. On serait dans d'autres pays, on serait sans doute plus répartis d'un point de vue institutionnel. On a un État jacobin et donc du coup on a une activité parisienne forte. Mais c'est pas une fin en soi et on veut pas supplanter aux différents gules qui puissent exister. Donc nous on est plutôt dans un facilitateur de mise en relation politique et mutualisation des efforts de sensibilisation. Et donc là-dessus, réfléchir sur la liste sensibilisation, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant pour se dire, mon expérience locale me dit que les besoins, c'est ça, ça, ça et ça. Comment est-ce qu'il y a des outils qui existent déjà en matière de sensibilisation pour m'aider dans cette tâche-là? Ou est-ce que vous auriez des idées pour qu'on crée cet outil de sensibilisation? Le catalogue du logiciel libre, qui est sans doute la réussite de ces la réussite visible du groupe de travail sensibilisation de ces derniers mois, c'est des volontés comme ça individuelles qui se sont dit c'est important de pousser ça et allons-y. Le catalogue libre association qui va sortir cette année, c'est la même chose. C'est une réflexion de 2-3 personnes, Jean-Christophe notamment, qui se disent il y a une problématique associative, comment on l'adresse ? Et au fur et à mesure, on aboutit à un guide libre association. Donc, c'est quand même compliqué de le faire tout seul, donc il ne faut pas hésiter à utiliser les mailing lists et puis des outils comme IRC où au moins on peut peut-être avoir un petit peu plus quand on est un peu tout seul dans son coin confronter un peu les arguments etc.
Sur le groupe sensibilisation c'est typiquement quelque chose sur lequel on pourrait aider à produire un document un peu spécifique à l'adresse de ces jeunes. Le problème, c'est que le groupe sensibilisation, il va lui falloir un certain délai pour produire ces documents, donc il faudrait être prévenu un peu à l'avance. Mais à la limite, si tu me dis que maintenant ils sont partis dans l'idée de faire des campagnes tous les ans, semble-t-il, ça peut être l'occasion de se dire pour la prochaine rentrée, on se prépare un document qui serait bien, bien spécifique pour ces étudiants.
Bon, il y a une dérive dans notre GUL, il y a une discussion. C'est une dérive à la fois. Bon, il a le droit. On a Créo Linux qui est développé à La Réunion. Le problème, c'est que c'est un prof de philosophie. Si vous allez, vous verrez, on a eu une grosse discussion dessus. Alors, on lui a simplement demandé le code source de sa distribution. Il nous l'a refusé, il en avait le droit. Bon, côté éthique, après nous, il faudrait qu'on l'achète pour y avoir droit. Donc on a un petit peu ce genre de contradiction par rapport à la liberté que nous donnent les fondamentaux, l'éthique du libre. Ensuite, La Réunion, ça reste quand même une très bonne expérience parce que c'est une première dans l'échelle sur notre... Enfin, je ne sais pas si en France, il y en a eu d'autres, et comme ça...
À ma connaissance, une diffusion aussi massive de systèmes d'exploitation libre...
20 000 ordinateurs par an.
Oui, c'est énorme. Il me semble que l'expérience comparable, c'est la diffusion de logiciels libres fait par la région Île-de-France, mais qui se résume à la diffusion de clés USB contenant du logiciel libre. Et donc c'est pour ça que l'expérience de La Réunion me paraît particulièrement intéressante, parce que sans doute qu'on est sous-équipé en matière de sensibilisation vis-à-vis du public éducatif, et que comme c'est une bonne nouvelle, comme c'est une réussite, notamment politique, je ne vois pas pourquoi ça n'inspirerait pas d'autres départements pour pousser ça. Et donc, une manière de pousser ces bonnes idées réunionnaises, c'est aussi de dire, mais regardez, c'est assez simple, il y a l'expérience technique de La Réunion qui montre que c'est possible politiquement, et qu'en plus, maintenant, il y a une communauté qui s'est organisée, qui a été capable de produire du contenu de sensibilisation, qui va aussi vous aider, vous, institution, à pousser ce sujet-là dans la société civile et auprès notamment du public que vous visez. Donc, rattraper le retard à La Réunion, on peut participer à combler le retard sur la formation politique, en quelque sorte, autour du libre, de chacun des élèves qui reçoivent du logiciel libre. Maintenant, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on, grâce à cette expérience, il y a une occasion pour capitaliser là-dessus. Après, sur Créo Linux, l'un des enjeux dans le logiciel libre, quand on monte un projet libre, c'est sa gouvernance. Et une manière, à mon avis, pas totalement débile, c'est de se baser déjà sur des gouvernances qui marchent. Et donc, plutôt que de pousser des distribs locales qui sont sexy d'un point de vue politique, c'est clair que je pense notamment à la région espagnole d'Extrémadure qui a créé sa propre distribution. Ça a été un vecteur politique très important. Et même pour les communautés locales qui ont pu embaucher des salariés pour bosser sur les distribs. Mais in fine, si on a une vision à moyen ou à long terme, je ne suis pas sûr que ce soit franchement un succès, puisque cette distribution-là, elle est maintenant plus beaucoup utilisée, même au sein de l'Extrémadure, parce que l'engouement politique s'est tari. Alors que dire, c'est sans doute un message politique qui est plus compliqué à pousser auprès des hommes et des femmes politiques, mais de dire, voilà, il y a des distributions qui marchent, Debian, c'est une gouvernance ouverte. On sait qu'on n'aura pas le problème qu'on a avec Creo Linux, où la liberté, visiblement, c'est la liberté du développeur, mais pas tant la liberté des utilisateurs. Parce que c'est la liberté des utilisateurs qui crée l'égalité. C'est ça qui est important dans le logiciel libre. C'est comment le numérique peut créer de l'égalité. Et pousser ce message-là en disant ok, vous pouvez claquer des centaines de milliers d'euros dans une distribution locale, c'est juste que on se souviendra rapidement plus de vous. Ce sera un succès politique temporaire. Est-ce que vous voulez vous inscrire dans le temps court ou dans le temps long? Si vous voulez vous inscrire dans le temps long, dans ce cas-là, le fait qu'on dise que le département de la Réunion est embauché des gens qui travaillent à mi-temps ou à plein temps pour des distributions d'envergure mondiale comme Debian par exemple, ou enfin quel que soit le choix, je pense qu'il y a un message politique qui est intéressant et qui peut intéresser les hommes et les femmes politiques localement.
C'est très intéressant parce que nous on avait fait une lettre commune et elle est publiée sur le net. C'est très intéressant. Maintenant on fera des wikis sur April aussi, on diffusera pour justement converger vers toutes ces choses que nous on avait plutôt donné d'autres valeurs. Je me souviens plus tellement de la lettre. Bon, le refus m'avait un peu refroidi sur le moment, mais il y avait autre chose. Le grand gagnant reste quand même Ubuntu malgré tout. Des gens qui avaient Creo Linux, des gens qui avaient SUSE ou autre, au bout de la moitié de l'année, ils ont basculé, parce que normalement quand on a un POP, on n'a pas le droit d'être sur un OS privateur. Bon, sauf les gamers, c'est les fameux 20%. Ce sont ceux qui gament, qui eux ont trouvé le truc pour le mettre. Mais sinon, ils sont libres, les élèves sont libres d'aller voir Monsieur Pop, qui est le représentant de chaque lycée, et de mettre une autre distribution. Donc c'est Ubuntu qui a gagné. Bon, j'espère que ça sera une autre, vu la politique qui sont un peu partie actuellement, mais bon, on n'est pas là pour en débattre. Je laisse la parole à d'autres.
Mais merci en tout cas, et si on peut aider à faire connaître cette initiative intéressante, et après vous aider concrètement, je pense que institutionnellement ça nous intéresse, je pense que sensibilisation ça devrait intéresser le groupe de travail aussi, et puis ça va peut-être motiver des gens à reproduire cette bonne expérience là.
Il y a de la perte d'énergie parce qu'il y a eu beaucoup d'endroits.
Dans le GUL, là, il y a un petit peu de perte d'énergie parce que ça n'a pas fait venir plus de monde dans le GUL. C'est pas parce que les gens sont sur du libre que c'est l'engouement, ils ont compris. Il y a aussi un manque d'éducation populaire et on leur met du Linux, mais on leur dit pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Ils ont de l'éducation, comment on appelle ça, comme on a tous eu, civique. Mais ils n'ont pas dans l'année une heure où on leur explique l'histoire du libre. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a une petite perte d'énergie. Il y en a certains qui ont donné beaucoup. Mm-hmm. Et quelque part, ils ont l'impression d'être fait voler par les politiques qui n'en voyaient qu'un aspect économique. Voilà.
Juste un truc, quand je parle de politique, c'est au sens social du terme. C'est pas politique au sens des hommes et des femmes politiques. Pour moi, le logiciel libre, c'est du politique. C'est de faire en sorte qu'on crée des outils démocratiques à l'heure du numérique. Voilà, alors que toi, tu parlais politique au sens de la politique des hommes et des femmes politiques. Pardon, Jean-Christophe.
Grâce à quelques-uns de la Réunion, on a eu des retours à April sur ce projet POP, et c'est vraiment déjà la première chose à faire, c'est de faire du lien entre ce qui se passe au local et l'April, pour que nous on puisse avoir connaissance de cette expérience, pouvoir en parler, si elle est couronnée de succès, pouvoir essayer de mener des actions pour qu'elle soit répliquée dans d'autres régions. Ce que je pense, c'est que comme toute opération, voilà, maintenant il y a quelque chose qui est enclenché, il y a des sujets de satisfaction, puis il y a des sujets de frustration ou de rancœur. Ce que je pense, c'est qu'il faut surtout retenir que là où plein de régions partent de zéro ou ne sont pas encore parties, vous avez un passif, vous avez un vécu, vous savez certaines choses qui marchent, certaines choses qui ne marchent pas, certaines difficultés. Et donc vous avez un terreau pour avancer. Donc est-ce qu'il ne serait pas intéressant, en se structurant un peu, en s'organisant un petit peu, d'aller à la rencontre des personnes qui portent cette opération au conseil régional, de leur dire voilà, vous avez mis ça en place il y a un an, nous on a suivi avec intérêt, on est intéressé par cette démarche. Nous, on a constaté un déficit qui est la sensibilisation citoyenne aux enjeux du logiciel libre. On pense que c'est important de réfléchir, de travailler sur quelle est la meilleure distrib. Oui, mais surtout, pour nous, ce qui est important, c'est l'éducation citoyenne. Donc, par rapport à ça, par exemple, une proposition très concrète qu'on pourrait leur faire et qui a des chances d'être acceptée parce qu'elle ne leur coûte rien en termes financiers et elle peut leur apporter du plus en termes politiques, c'est de leur dire, est-ce que par exemple on pourrait rajouter dans le cahier des charges de l'ordinateur POP le fait qu'il faut qu'à la livraison de l'ordinateur, il y ait sur le bureau un dossier qui s'appellerait le libre pour en savoir plus, dans lequel on trouverait des textes, des images, des présentations, des conférences audio, des petites vidéos. Que nous, April Sensibilisation, on pourrait alimenter. Il y a un certain nombre de choses qui existent, soit par April Sensibilisation, soit par plein d'autres gens qui ont fait des ressources. On ferait une sélection de ces ressources, on les mettrait sur l'ordinateur. Et les prestataires, qu'ils soient Creo Linux, qu'ils soient Ubuntu, qu'ils soient autre chose, simplement, ils auraient dans leur cahier des charges l'obligation de mettre ce dossier de 200 ou 300 mégas de ressources en évidence sur le bureau avec quelques exigences. Voilà. Je pense que ça, au niveau du conseil régional, c'est quelque chose qui les engage peu, c'est quelque chose qui leur coûte rien si on leur fournit les ressources, mais par contre politiquement c'est un acte fort et on n'est pas dupes, on sait que tous les jeunes n'iront pas cliquer dans ce dossier, mais s'il y en a 10 qui vont cliquer dans ce dossier, qui tombent sur une vidéo percutante qui leur explique ce que c'est que le logiciel libre et qui font rayonner l'info, ça peut peut-être contribuer à faire avancer la situation. Ce que je pense, c'est qu'il faut faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'organiser entre nous pour faire une vraie proposition avec un certain nombre de ressources identifiées, un argumentaire sur pourquoi c'est important de mettre à disposition ces ressources, quelle est la démarche derrière, etc. Ensuite, aller la vendre aux politiques et que les politiques puissent donner l'ordre à leur service, à leurs techniciens, de transposer ça sous forme de cahier des charges en disant telle ressource doit figurer de telle manière sur le bureau, quelle que soit la distribution retenue. Et à partir de la rentrée prochaine, c'est une clause qui s'impose à tous les prestataires qui veulent être éligibles au programme POP.
Alors là, on va toucher à autre chose. Les prestataires ne sont pas forcément contents de vendre du Linux. Mais bon, c'est bien de l'obliger. C'est bien de l'obliger, pas de... Et oui, on est obligé de passer par la politique, et là, dans le sens général, comme on parlait. Non, mais très bien, ben on va commencer à créer ce... Bon, voilà, ça fait déjà un atelier.
Merci. Parfait. Ben, je sais pas, tu es là demain ? Est-ce que tu es avec nous dimanche ? Parce que, voilà, comme on a toute une journée d'atelier, c'est le moment de commencer à mettre sur le wiki de l'April déjà des petites notes sur cette idée, et puis commencer à faire un petit canevas, quoi. Oui, bien sûr. OK. On va s'arrêter là parce qu'il est déjà midi passé. Je vous remercie beaucoup donc pour tous ceux qui ont tenu malgré la fraîcheur du lieu. Maintenant qu'on a fermé les portes, c'est un petit peu mieux là, j'ai l'impression. Hein. Ça va un peu mieux. On va laisser les portes fermées pour cet après-midi. Et puis là, on va aller déjeuner. Et puis on se retrouve ici avant 14h, hein, parce qu'on va essayer de démarrer à 14h pile. Donc si vous voulez être là à 13h45, dernier délai. Parce qu'il faut encore qu'on fasse les émargements et tout ça. Voilà, merci et à tout à l'heure.